Voilà, hey, notre invité. Hey, savais-tu que Louis, on travaille beaucoup pour les impôts et les taxes hein, au Québec?
Oh, c'est quoi, c'est 6 mois par année?
Ben, à peu près. Ben, d'ailleurs, on va en parler avec notre invité, Nicolas Gagnon, par la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, c'est Liberation Day, c'est quand? C'est quand le jour de la libération?
Ah, c'est une bonne question. Donc, au Canada, c'est, en moyenne, c'est le 9 juin. Donc,
C'est plus loin. Hein? Je pense que c'est autour de la Saint-Jean. Ça se peut-tu?
Oui, c'est le 27, exactement. Donc, on a le temps de passer à travers le hangover de la Saint-Jean-Baptiste avant de célébrer la journée de la libération fiscale du Québec. Puis en plus, ben ça, c'est bien sûr basé sur le rapport de l'Institut Fraser qui publie ça une fois par année pour nous rappeler que finalement, on passe quand même pas loin de la moitié de l'année à payer des impôts à tous les niveaux. Essentiellement, donc on calcule la journée à partir de laquelle on peut vraiment dire qu'on travaille pour nous parce qu'on a passé le reste de l'année à payer des impôts et les taxes à tous les autres paliers gouvernementaux. En moyenne, au niveau canadien, c'est le 9 juin. Il y a des provinces que c'est pas mal plus tôt, comme la Saskatchewan, qu'on calcule que c'est à partir du 20 mai que les gens travaillent pour eux. L'Alberta, c'est le 25 mai. Le Québec, malheureusement, est bon dernier cette année. C'est le 27 juin où est-ce qu'on peut enfin dire qu'on travaille pour nous-mêmes.
Et ça veut dire que nos cotisations, notamment au régime des rentes du Québec, puis d'autres cotisations vont baisser. Hein? C'est ça qu'on... Les autres, ils se payent les premiers 6 mois, c'est ce que je comprends, là.
Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On répartit en fait l'ensemble des contributions. Donc, on parle de tous les prélèvements, les impôts sur le revenu, les charges sociales comme le RRQ ou le RPC fédéral, les taxes santé, taxes de vente, taxes foncières, taxes sur l'essence, taxes carbone. Faut rappeler qu'on est les seuls à en avoir une. Donc, c'est le genre de choses qui sont comme calculées, puis on établit ça en fait sur l'ensemble des charges, l'ensemble des dépenses des ménages. Et c'est là qu'on établit, dans le fond, que ça prend environ 158 jours de travail en moyenne dans une année pour combler toutes ces dépenses-là. Puis le reste des journées de l'année, ben on travaille pour nous-mêmes, entre guillemets. Puis ça, 158 jours, c'est le Canada. Au Québec, c'est 176 jours que ça prend avant qu'on se rende à cette date fatidique.
Mais dans l'OCDE, dans le monde, on est parmi les plus taxés aussi. On est très, très, très élevé. Les pays scandinaves travaillent plus pour l'impôt ou quelque chose comme ça?
Je crois que les pays scandinaves, ça, j'avais pas le détail sous les yeux, mais oui, ils travaillent à peu près un peu plus ou un peu moins, ça dépend des pays, bien sûr. Puis c'est sûr que des fois, on oublie que dans ces pays-là, oui, des fois, il y a une fiscalité qui est plus lourde, des fois, on paye plus.
Mais ils ont un front souverain qui vaut des milliards de dollars, là, hein?
Exactement. En contrepartie, tu sais, c'est la question qui tue souvent. C'est les gens, on leur demande, est-ce que vous seriez intéressé à payer autant d'impôts, voire même plus, si, par exemple, vous en aviez pour votre argent? C'est-à-dire, si vous avez des belles routes, des belles infrastructures, des services à la population, vraiment une prise en charge quand vous allez à l'urgence plutôt que d'y patienter pendant des heures et des heures sans voir de médecin au triage, ça a l'air niaiseux, mais les gens se disent carrément, ben écoutez, si j'en avais pour mon argent, je chialerais pas sur le fait que je paye autant de taxes et d'impôts. Mais le problème au Québec, c'est que on est les plus taxés en Amérique du Nord, on est parmi les plus taxés de tous les pays de l'OCDE. Le Québec, si c'était à lui seul un pays, on serait, je pense, 9e pays là, de tous les pays sur les 38 pays de l'OCDE à être le plus taxé. Donc, ça donne une idée, finalement, on est même plus imposant que certains pays comme Scandinave, justement. Et pourtant, je prends souvent cet exemple-là en l'air, on est la province qui paye le plus, ou plutôt la juridiction nord-américaine qui paye le plus de taxes par litre d'essence. Et pourtant, on a les pays routes en Amérique du Nord. Donc, ça donne une idée. On est aussi une des provinces qui paye le plus en impôts et qui verse le plus de par rapport à notre budget national d'argent à notre service de santé, services sociaux. Puis on a les pires attentes du G7. Donc, faut quand même réaliser que des fois, on paye beaucoup trop pour la qualité des services qu'on reçoit. Puis là, dans ce cas-ci, je pense que c'est comme c'est ajouter l'insulte à l'injure de se faire dire finalement, oui, puis en plus, on est comme ceux qui payent le plus longtemps, qu'on compare dans l'année, là, qui payent le plus de taxes d'impôts à tous les paliers, puis finalement, bon, on n'en a vraiment pas pour notre argent. Là.
Et quand on calcule le taux d'endettement fédéral, provincial, municipal, on est parmi les plus endettés au monde.
Là. Oui, ben le Canada, lui seul, si on fait le vrai calcul, parce qu'on calcule de deux manières. Là. Il y a la manière qu'on calcule les dépenses fédérales, mais si on prend les dépenses et le budget et la dette nationale, à tous les paliers, on est à plus de 100% de l'endettement du Canada. Donc, c'est sûr que c'est jamais présenté comme tel parce qu'on divise les budgets entre les différentes juridictions.
Ben oui, mais
la réalité, c'est ça. C'est que si on se comparait, c'est sûr qu'on n'était pas aussi pire que, par exemple, le Japon ou les Américains. Il faut dire, par exemple, que le Japon qui a un taux d'endettement assez monstrueux. Il n'en reste que leur dette est détenue presque à 100% par des obligataires, plutôt par des Japonais eux-mêmes. Là. Donc, c'est une dette qui est vraiment envers eux-mêmes, d'une certaine manière. Tandis que que nous, ben, c'est un peu différent. On s'entend comme les Américains. Il y a quand même une partie de la dette qui est détenue par des obligations et des fonds étrangers. Donc ça, ça peut avoir quand même un impact à long terme. Mais il n'en reste que nous, au Canada, on a quand même une situation d'endettement qui est assez... qui peut nous rendre pessimistes, surtout que récemment, il y a eu une mise à jour qui a été publiée par le directeur parlementaire du budget à Ottawa, puis on apprend que le déficit de cette année, ce sera peut-être pas 65 milliards, ça peut être plus 72 milliards. Finalement, on a déjà des dépenses supplémentaires qui sont pointées. En quelques mois, on a déjà fait sauter les projections. Donc, on est vraiment dans l'endettement chronique à solidement.
Ouais, puis quand tu dis, les Américains sont peut-être plus endettés que nous autres. Une chose est sûre, les Américains sont productifs et créent de la richesse.
Oui, ben, ils ont un PIB qui connaît une meilleure croissance, c'est sûr, qui est plus soutenu. Ils ont des infrastructures qui sont moins désuètes que les nôtres. Ils ont aussi quand même, en contrepartie, je veux dire, on parle quand même de la plus grande puissance économique et militaire de l'histoire de l'humanité, là, rien de moins. Donc oui, il y a un endettement, mais il y a une contrepartie en termes d'actifs qui est quand même qui a une très grande valeur. Puis en même temps, ben, c'est pas non plus un pays qui hésite à développer ses infrastructures énergétiques pour transporter ses ressources. Alors qu'au Canada, ben, c'est une problématique qu'on a. Je veux dire, on a passé quasiment les 10-11 dernières années à tout faire à Ottawa pour ne pas parler de pipeline, excepté Trans Mountain qui nous aura coûté plus de 35 milliards. Puis que bon, on a hâte de voir complètement achevé. Mais il n'en reste qu'avant de voir un autre pipeline se construire au Canada dont on aurait grandement besoin. Je veux dire, on est un pétro-État qui refuse de se reconnaître comme tel. Exact. Ben, avant de le voir construire, là, on va devoir s'attendre à bien des consultations, bien des négociations, puis probablement même beaucoup d'opposition et de poursuites judiciaires avant la première pelletée de terre. Donc, malheureusement, on a un Canada qui est très impraticable quand c'est temps de vraiment développer notre économie. Là.
Bon, sondage Palace Data sur favorable ou pas un TGV. Les Québécois se montrent très favorables à un TGV à 42 %. Par contre, la question n'impliquait pas un prix. Là. On est à 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards. D'après moi, si tu poses la question comme un tramway Québec à 12 milliards versus un tramway à 3 milliards, il y aurait beaucoup plus de gens favorables à 3 milliards qu'à 12 milliards. Même chose pour un TGV. Là. On ne sait pas comment ça va coûter. Mais si on mettait dans la question un coût, là, un 100 milliards, 120 milliards, d'après moi, on n'aurait pas les mêmes résultats.
Non, absolument. Puis déjà qu'à Québec, le tramway, peu importe le coût, il était déjà rejeté. Donc, si en plus on dit 12 milliards, on peut s'attendre à une opposition encore plus farouche. Mais au niveau du TGV, c'est sûr que si je vous dis, voulez-vous un TGV? Tout le monde veut un TGV.
Mais oui, je veux des cadeaux.
Puis comme j'aime le dire, 100% des gens qui veulent le TGV ne seront pas expropriés pour le TGV. Là. Ça, c'est quand même, il faut le rappeler, la semaine dernière, il y avait une manifestation assez importante à Ottawa devant le Parlement. Auquel a participé beaucoup d'agriculteurs de la région de Mirabel, que je connais très bien. C'est juste à côté de chez nous, j'y ai de la famille. Puis eux autres, ils ont vu ça donnait quoi, les expropriations massives avec l'aéroport de Mirabel, qui est un autre éléphant blanc qu'on a bien connu, qui a coûté des centaines de millions et qui a fini par être fermé. Donc, pour le TGV, on s'entend, on a une facture qui, pour l'instant, nous a déjà projeté entre 60 et 90 milliards. On s'attend déjà à des dépassements de coûts. On sait qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas vraiment de TGV qui se sont construits sur d'aussi longues distances dans des coûts qui étaient inférieurs là, à ce qu'on nous présente présentement. Donc, il faut s'attendre à une facture assez salée. Puis là, ce que je suis content de constater, c'est qu'il y a enfin une véritable opposition politique qui se forme en fait contre le fameux TGV. À Ottawa, on a des conservateurs qui sont totalement contre parce qu'ils savent très bien que ce sera un éléphant blanc. On a le Bloc québécois qui dénonce le projet de sa manière dans la mouture et surtout le coût comme l'impact des expropriations. Puis finalement, on a le Parti québécois, c'est une première à l'Assemblée nationale, qui s'oppose, qui, si jamais il forme le gouvernement, ils disent carrément qu'ils vont s'opposer au TGV. Là où le bas blesse, pour moi, c'est qu'ils ont raison à 75 %. Le 25 % que je leur retire, c'est parce qu'ils veulent avoir l'argent du beurre, mais ils ne veulent pas avoir le beurre. Ouais. Ils veulent avoir l'argent du TGV, mais pas le TGV. Ça ne marche pas de même, parce que la réalité, c'est que si c'est pas être de même, pourquoi est-ce que l'Alberta ne demanderait pas sa part d'un TGV qu'ils n'auront pas dans leur cours, mais qu'ils vont payer avec leurs impôts inévitablement?
Oui.
Puis toutes les autres provinces pourraient demander leur dû rendu là.
Oui, puis tu sais, on voit le projet, là, c'est Toronto, Windsor, Ottawa, Montréal, Québec. Les autres provinces n'auront pas profiter des installations du TGV, là.
Ben c'est ça. Halifax ou Vancouver, je veux dire, ils aimeraient ça avoir leur dû de leur côté. Là, ils pourraient utiliser exactement le même argument que Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus, puis ils auraient raison de le faire dans une certaine mesure. La réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer un TGV, encore moins un TGV qui va coûter plus de 100 milliards, puis qui va prendre des années à être construit, puis qui va également, comme pour un pipeline, venir avec un paquet de problématiques justement liées à des expropriations massives. Et puis on s'entend, là, c'est un TGV qui est sur plus de 1000 km. Donc, il n'y a pas juste Mirabel qui va être impacté.
Non.
Ça va toucher plusieurs communautés. Puis même l'UPA s'est déjà levé contre le projet en disant, écoutez, nous, on va être possiblement les premières victimes et les principales victimes parce que, je veux dire, ce TGV-là, il ne va pas passer essentiellement dans les villes. Il va passer essentiellement en milieu rural. Donc, c'est des agriculteurs qui vont voir leur champ être carrément coupé en deux par un projet qu'ils n'ont pas demandé, mais qui a été utilisé là, pour susciter un engouement électoral à plusieurs reprises. Là, ça fait quasiment une vingtaine d'années qu'on entend parler du TGV, mais on se rappelle que Justin Trudeau, dans le dernier mois et demi avant de partir, il avait déjà démissionné, mais il a pris le temps quand même de nous donner ce projet-là avant de partir. Ouais. Donc, on n'est pas né qu'un éléphant blanc qui va coûter très cher.
Voilà. Et le lobby UPA, là, on comprend que là, il y a des négociations de libre-échange. Est-ce que c'est pas non plus une façon de négocier la gestion de l'offre par le TGV aussi? Lobby pour lobby, là, qu'on parle. Fait qu'il y a tout ça aussi derrière là, qu'il faut regarder. Hein?
Ben oui, il doit y avoir beaucoup de négociations à ce niveau-là parce que tout le monde s'entend pour dire que, bon, la CE doit être renouvelée. On s'entend que l'économie canadienne en dépend dans une bonne mesure, mais c'est aussi que de se dire, ben si on le renouvelle, c'est quoi les concessions qui vont être faites par le gouvernement fédéral? Puis on a entendu souvent parler de la gestion de l'offre. De notre côté, nous, on va pas intervenir à savoir ce qu'on est pour ou on est contre pour l'instant. C'est plus de se dire, l'UPA, si elle veut protéger ses acquis, ben elle va devoir comme choisir ses combats dans une certaine mesure. Moi, je pense qu'ils ont raison de s'opposer au TGV, mais j'ai comme l'impression que le gouvernement fédéral va aller les voir en disant, écoutez, là, on veut protéger la gestion de l'offre, mais en attendant, pouvez-vous vous calmer sur le TGV? Puis de toute manière, on va vous compenser avec des montants suffisants pour vous calmer. Ça se peut que ce soit ça, en fait, que ça serait de la
coûte chèque. C'est pas
et
fou,
que ça coûte
là.
Beaucoup plus cher. Là. C'est pour ça que la facture du TGV risque de coûter plus que 100 milliards. Oui, l'infrastructure, mais aussi les compensations pour les expropriations.
Voilà.
Ça aussi, ça risque d'être très salé. Là.
Voilà. Non, écoute, beaucoup de dossiers en même temps, mais qui s'entrecroisent avec l'argent du fédéral. C'est toujours intéressant. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, vous êtes salué. Et on vous souhaite un jour de la libération à un moment donné, là, prochainement.
Oui, bien la semaine prochaine, si tout va bien.
Salut. Salut, merci. Salut. Voilà. Bye. Ah, c'est pas facile.
Non.
Pas facile.
Non.
TGV, si tu mets le prix 100 milliards,
oui.
Là, je pense que le monde, hein? Mais 100 milliards, puis où tu mets le prix d'un billet. Êtes-vous favorable à la construction d'un TGV, mais à un coût de billet à 500$?
Il est plus là, parce que 100 milliards de nos jours,
c'est
rien. C'est tellement d'argent, là.
C'est 100 000 millions. Pense à ça, là.
Ça fait de la Lambo en sacrifice,
hein?
Là.
Non, ben ça fait beaucoup d'argent pour bien du monde.
Ah oui, oui. Tu règles l'itinérance au Canada.
Non,
100 milliards, tu règles l'itinérance. Tu achètes une maison à tous les itinérants, puis tu lui trouves un job.
En fait, tu peux toutes les pogner, les désintoxiquer, puis les amener dans des cures fermées. Puis
20 fois.
20 fois? tu peux acheter des manoirs pour...
Tu leur achètes une Lambo. Toute la gang, avec une carte de gaz.
Deux jours après, revendu.
Oui, revendu, puis le marché du crack explose.
Mais tout ça pour dire que... Non, écoute, il y a plein, tu sais... Encore là, c'est des sondages coulés, là, on le comprend, là.
Ben oui.
Qui a commandé la question, là? Ben, ça doit être la gang d'Alto, ils ont dit à la Palace...
Tout le temps.
Rajoute-moi deux, trois questions sur le TGV, mais ben tronqué, là.
Mais tu dis, c'est 600$ Québec-Toronto?
Ben non.
Jamais prendre ça.
Va pas là.
Personne.
Ça me tente pas.
Personne.
Je vois-tu à Toronto? Je vais à Toronto une fois par année.
Qu'est-ce que tu vas aller faire à Toronto?
Ouais, Blue Jays.
Ouais.
La Tour du CN, je suis allé.
Ouais, une fois.
Ouais, c'est ça. Voilà. Hey, après la pause, là, on parle avec le Food Professor.
Yes, sir.
Là, il est en Irlande.
C'est hot.
Il donnait une conférence un matin en Irlande. Il va tout nous compter ça.
On
va
All around the world.
C'est pas les dossiers qui manquent, là. Tout à l'alimentation. On va jaser avec Sylvain Charlebois au retour.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.